BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et aujourd'hui, on va parler de nos maisons, toutes nos maisons. Ça démarra par le pro de l'IMO du jour qui va nous permettre non pas de choisir une nouvelle maison, mais d'agrandir notre maison qui existe déjà. Surtout, si on veut faire des enfants, il y en a encore qui veulent faire des enfants dans notre pays, qui ont peut-être pas les moyens d'acheter une nouvelle maison, mais qui ont peut-être les moyens de s'agrandir. Et pour ceux qui ont les moyens, on va parler de la maison neuve. Ce sera notre débat du jour. Où est-ce qu'on en est de cette construction de maisons en France? Ça allait pas très bien, ça va beaucoup mieux depuis le retour du prêt à taux zéro. Est-ce que ça ira toujours aussi bien avec la hausse des taux d'intérêt? On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est donc l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Jordan Rousseau, responsable de l'agence Illico Travaux à Tournefeuille. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Je le disais, pour celles et ceux d'entre nous qui ont déjà la maison, qui vont avoir 1, 2, 3 nouveaux enfants, parfois c'est compliqué de se projeter dans un nouveau logement, qui plus est à l'heure où nos taux d'intérêt augmentent un tout petit peu. Et vous, chez Illico Travaux, vous proposez notamment, pas que, mais d'agrandir des maisons existantes, et ça a bien fonctionné pour un ménage dont vous vous êtes occupé récemment.
Effectivement, on a été contacté par une famille d'une commune proche de Tournefeuille, qui souhaitait en fait gagner un espace de vie sans pour autant avoir à déménager, pour pas avoir à gérer les changements d'école, le déménagement lui-même, les frais qui sont liés à vendre sa maison, refaire un nouveau prêt. Donc on s'est rendu sur place pour étudier le potentiel actuel de la maison.
Mais du coup, Jordan, j'ai quand même une question, je vous interromps, mais l'histoire est formidable. Et là, en plateau, j'ai des spécialistes de la maison, alors du coup, je les regardais en leur disant, mais quand on s'agrandit, est-ce qu'on peut avoir droit à un crédit immobilier ou est-ce qu'on doit prendre un éco-PTZ ou un crédit conso? Est-ce qu'on peut avoir droit à un nouveau crédit immobilier?
Alors, on peut effectivement faire des prêts travaux pour agrandir notre maison. Quand c'est sur une partie de rénovation énergétique, on peut aller essayer de chercher un PTZ, mais c'est dans la tendance actuelle, je crois, de développer un nouveau PTZ pour les personnes souhaitant agrandir leur maison actuelle.
Mais oui, c'est une députée UDI qui porte cette proposition de loi, donc un prêt à taux zéro qui irait jusqu'à 100 000 euros pour ceux qui veulent. C'est pour booster la natalité dans notre pays. On l'a très souvent dit ces derniers temps qu'on avait désormais plus de cercueils que de berceaux. Et parfois, c'est le problème du logement que vous traitez. Ça coûte combien d'agrandir sa maison versus se payer une nouvelle maison?
Alors sur ce projet, ce qu'on avait de bien, c'est que les clients avaient un garage attenant de plus de 40 mètres carrés qui sous-exploitait complètement. Il était vraiment utilisé pour ranger quelques outils, mais vraiment pas pour mettre leur véhicule. Donc on leur a proposé, nous, de le transformer en habitable. Et sur ce projet, on a fait 43 mètres carrés pour un peu plus de 50 000 euros. Donc ça leur faisait à peu près du 1100 euros le mètre carré sur une commune où on était plus avoisinant les 3000 euros du mètre carré. Donc c'était totalement rentable pour eux par rapport à un déménagement.
Ah non, mais là, la parisienne que je suis vous entend, 43 mètres carrés, c'est un T5 à Paris. Non, mais c'est génial. Vous en faites beaucoup des agrandissements de maisons ou pas? Précisément par rapport au sujet que vous abordiez sur cette idée de cette députée UDI de prêt à taux zéro jusqu'à 100 000 euros pour les familles. Est-ce que à l'heure où effectivement on a cette petite crainte sur les taux d'intérêt, est-ce que vous voyez de plus en plus souvent des gens qui, faute de pouvoir acheter plus grand, viennent vous voir pour éventuellement agrandir l'existant?
Alors effectivement, on est dans un secteur où les gens sont très attachés quand même à leur zone géographique, et où prendre une maison plus grande d'y aller plus loin. Et on est sur souvent des maisons qui ont des potentiels non exploités, que ce soit des dépendances, des garages ou même des combles qu'on peut aménager. Sans parler des clients chez lesquels on crée des extensions. Donc oui, on agrandit souvent les maisons existantes plutôt que de gérer des déménagements ou des constructions pour notre partie. Ouais.
Bon, merci pour votre témoignage. En tout cas, Jordan Rousseau, responsable de l'agence Illico Travaux de Tournefeuille. Pour ceux qui ont quand même envie de déménager, on va aller la faire construire, notre maison, tout de suite. Allez, c'est le débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Ouais, c'est bien d'agrandir quand ça existe déjà, mais parfois c'est bien de faire construire une nouvelle maison. Messieurs, vous pouvez être que d'accord avec moi. Sylvain Massonneau, le président, le vice-président du... Oui, il me fait un petit sourire. Le vice-président du Pôle Habitat FFB et directeur de Tradimaison en Auvergne.
Exactement, bonjour Marie.
Et également à mes côtés, Loïc Vendrome, le directeur général du groupe Exaome. Bonjour Loïc.
Bonjour Marie.
Alors oui, je le disais, c'est bien aussi de pouvoir avoir sa nouvelle maison. Et je le disais en préambule, c'est un marché, celui de la maison neuve, qui a quand même repris de sacrées couleurs. J'ai envie de dire beaucoup plus vite que le collectif d'ailleurs. Parce que le collectif, pour l'instant, ça va pas des masses. Du côté de la construction de maisons, ça va nettement mieux. Vos chiffres sont plutôt encourageants, messieurs. Je sais pas lequel de vous deux souhaite commencer.
Ouais,
ils se regardent l'un l'autre.
Le marché a été plutôt dynamique sur l'année 2025. On a constaté dans les chiffres une belle reprise de ce marché à hauteur à peu près de 25% d'augmentation, ce qui est quand même notable. C'est un effet direct du PTZ qui est venu soutenir le marché.
En avril, c'est ça, parce qu'on a eu avec le projet de loi de finances décalé, là.
Tout à fait. Donc, le PTZ est venu soutenir les familles candidates à l'accession à la propriété, notamment la construction d'une maison. Donc ça s'est ressenti immédiatement dans les chiffres. Par contre, il faut noter que le début de l'année 2026, s'il était aussi bon jusqu'à...
Déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.
Exactement,
en gros,
la guerre au Moyen-Orient, qui a marqué aujourd'hui un début d'un plateau, hélas. Mais le marché était encore très dynamique sur ce début d'année. Donc on sent le besoin, on sent l'envie qui est constatée partout dans les territoires. Et je pense que Loïc Vendrome pourra le confirmer à hauteur de ses agences.
Ouais, tout à fait. Exaome, on travaille sur tout le territoire national, donc je pense qu'on est assez représentatif. Ce qu'a dit Sylvain Massonneau est très vrai. Hein.
Ouais.
2025, une forte reprise. Après, on était aussi descendu très bas, donc attention à ces pourcentages, mais on peut que s'en réjouir. Mais le début d'année, les deux premiers mois ont été un peu dans la même lignée, mais depuis deux mois, effectivement, on constate quand même un certain attentisme, et ça nous inquiète un petit peu. Donc, content, mais quand même très vigilant par rapport à tout ce qui se passe.
Mais messieurs, j'ai une question à vous poser. On a rapidement parlé de l'impact du retour du prêt à taux zéro sur la maison neuve, là, en avril 2025, et du fait que ça vous a aidé. Mais là, justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient? Remenace inflationniste, légère hausse de nos taux de crédit, crainte d'une hausse des taux de la Banque Centrale Européenne qui pourrait accélérer la hausse des taux de nos crédits immobiliers. Et je me dis, le prêt à taux zéro, c'est super, du coup on va avoir encore plus de gens qui vont se précipiter pour faire construire leur maison, c'est pas le cas?
Oui, l'effet PTZ pèse toujours et
mais d'autant plus fort quand les taux sont élevés.
C'est certain, mais le coût de l'énergie du quotidien, notamment dans les déplacements, pèse très très lourd dans le budget des ménages. Il y a de l'inflation aujourd'hui qui est constatée dans l'alimentation, dans toute la consommation du quotidien. Et celle-ci inquiète nos clients. Ils ont du mal aujourd'hui à estimer leur budget qu'ils peuvent consacrer au poste important qui est celui de la dépense de logement, hein, qui est, rappelons-le, le premier poste de dépense des ménages.
Et donc, de loin.
Et donc, il faut absolument sécuriser ce poste-là pour eux. Et tout de suite, la visibilité n'est pas évidente. Les chiffres de l'augmentation, je reviens dessus, les plus 25% de l'année dernière, on reste malgré tout à 40%
en deçà de la
moyenne historique. Donc les objectifs du gouvernement de 400 000 logements par an jusqu'à 2030, on en est encore, hélas, très loin. Il va tout falloir pour les atteindre.
Mais je confirme qu'on parle de début 2026, mais même mi-2025, si on n'avait pas eu le PTZ l'été dernier, quand les taux ont commencé à augmenter, on n'aurait pas fini l'année 2025 comme on l'a fini. Et effectivement, au moment où on se parle, ce sera encore pire. Donc effectivement, il n'y a pas un effondrement du marché, clairement. Mais la remontada, on va dire, il y a un week-end footballistique qui était engagé en 2025. Malheureusement, en 2026, je pense qu'on est parti plutôt pour une nouvelle stabilisation. Alors, c'est mieux de se stabiliser que de reculer. Mais effectivement, on est sur un point bas, comme l'a dit Sylvain Massonneau, et le marché, les Français, aujourd'hui, ont besoin de construire, ont besoin de rénovation, on en a parlé, mais ont besoin de construire. Donc, il faut qu'on fasse plus de logements. Et en 2026, malheureusement, en termes de vente, ça va être compliqué.
Mais ma question, par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc j'ai parlé des crédits immobiliers, effectivement, ça, c'est quelque chose de très concret qu'on peut constater dans les offres bancaires. Bon, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Est-ce que vous avez ce sentiment? Là, Sylvain, vous parliez de... on a du mal à estimer son budget, mais vous parliez de l'inflation aussi des prix des carburants. Donc, c'est vrai que si c'est pour s'éloigner, et que ça me coûte trop cher de déplacement, etc. Ou est-ce que, comment vous percevez cette demande? Est-ce qu'elle est techniquement moins finançable ou est-ce qu'en fait, juste psychologiquement, ça nous a tous mis un coup?
Pour l'instant, c'est psychologique. La remontée des taux, elle n'est pas encore complètement pratiquée. Les banques restent, j'allais dire, dans une optique de prêter, hein, d'accompagner les ménages dans leurs projets, ce qui est plutôt positif. On voit là en ce moment, on en discutait en off, des offres qui sont attractives. Donc j'invite chacun à consulter sa banque pour connaître l'état des offres qui sont faites actuellement. Donc il y a une vraie envie du côté des banques.
Qui plus est dans le neuf en plus, hein, parce que les taux de marché qui parfois sont peut-être moyens, ils peuvent être agrémentés.
Parce qu'aussi le neuf, si on le ramène justement à l'énergie, c'est un neuf, c'est un logement qui ne consomme que très peu d'énergie dans son utilisation quotidienne, que ce soit en été, en hiver. Et ça, Loïc Vendrome le pratique tous les jours dans ses constructions, ses clients le constatent. Un logement aujourd'hui, il est économe.
Et justement, bah c'est ma question, vous construisez comment? Là, on a vu les appels en moment pleine crise de au Moyen-Orient et de se dire, oh là là, il va falloir qu'on réduise notre dépendance énergétique aux énergies fossiles, machin, etc. Donc, il va falloir faire du tout électrique. C'est comment dans la maison?
Bon, en fait, aujourd'hui, en fait, il y a, pas détaillé, mais en fait, aujourd'hui, on construit sur le dispositif de la RE 2020.
Et
en
version fait, 2025, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Et en fait, depuis déjà plusieurs décennies, en fait, on s'oriente vers un 100% électrique. Donc aujourd'hui, on est déjà quasiment sur un 100% électrique.
Ouais.
Donc effectivement, aujourd'hui, dans le logement, dans la consommation, on n'est pas dépendant d'énergie fossile. Ça, c'est certain. Après, le contexte au Moyen-Orient, néanmoins, a des impacts sur le prix des matériaux.
Les coûts de construction.
Voilà. Donc malheureusement, aujourd'hui, c'est aussi ça. Il y a un effet psychologique, ça a été dit par Sylvain Massonneau, c'est vrai. Mais il y a aussi un effet prix, c'est que les taux ont un peu augmenté, même si ça se stabilise. Mais aujourd'hui, on a quand même des industriels qui font face à des hausses réelles ou anticipées. Chacun y verra midi à sa porte. Mais forcément, nous, aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les prix de nos constructions pour anticiper. Donc c'est ça aussi qui freine, malheureusement, la demande. Parce que quand on augmente nos tarifs de 1, 2, 3%, bah forcément, c'est un petit peu moins de ménages qui peuvent à nouveau accéder à la propriété.
C'est combien 1, 2, 3% ?
Non, mais oui, aujourd'hui, forcément, on augmente nos tarifs du montant de l'inflation, historiquement.
Mais parce que vos fournisseurs eux-mêmes prennent en compte les charges d'énergie qui pèsent sur les matériaux qu'ils...
Tout à fait. Alors, il y a eu des industriels qui ont joué le jeu, il y en a qui ont moins joué le jeu. Là, tout le monde semble raisonnable, mais il y a un moment, il y a quand même une surcharge liée au coût de l'énergie. Donc forcément, ils nous la répercutent. Et forcément, nous, on est obligé de la répercuter sur
le client final.
Donc c'est aussi pour ça que je pense que les clients, il faut qu'ils achètent maintenant. Parce que les taux, peut-être qu'ils vont encore augmenter. Et
les
si le conflit
aussi
continue, les matériaux vont continuer d'augmenter.
Et pour compléter ce que dit Loïc Vendrome, on a aussi dans le coût de fabrication de nos logements, l'action de nos entreprises, les sous-traitants, les artisans qui produisent. Eux sont impactés directement dans leurs déplacements avec leurs fourgonnettes, leurs camions, leurs engins de travaux publics. Ils sont impactés par le coût du carburant et ils nous le répercutent, ce qui est tout à fait logique dans nos marchés de travaux. Et à partir de là, ça aussi, c'est une, hélas, une tendance inflationniste sur nos marchés. Donc aujourd'hui, entre ce que pratique l'industriel et ce que l'on paye aux entreprises, effectivement, on constate une augmentation des prix et on a peur qu'elle s'installe.
Et je me rappelle, alors malheureusement, on se rappelle tous les trois de ce qui s'est passé au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y avait des matériaux spécifiques, il y avait quoi, les tuiles. Enfin, est-ce que vous avez identifié aujourd'hui les matériaux dont l'inflation vous paraît la plus forte aujourd'hui?
Très clairement, les isolants aujourd'hui, ça pèse très très lourd. Les polyuréthanes, donc tous les isolants qui viennent sur les planchers, parfois contre les murs, dans certains combles, toiture terrasse, etc. Là, il y a vraiment une difficulté. On peut avoir des hausses qui peuvent aller jusqu'à 45% d'augmentation du coût du matériau, donc c'est colossal.
Côté aluminium, client,
l'aluminium aussi, bien sûr. Tout, enfin, vraiment aujourd'hui, c'est en train de se diffuser dans toute l'économie des matériaux. On a vraiment une crainte pour nos clients. Donc, acheter maintenant, c'est aussi se sécuriser contre l'inflation. Et nos porteurs de projets, malgré les inquiétudes qu'ils ont, aujourd'hui viennent à nous. J'allais dire un peu résigné, mais certain de faire une bonne affaire par rapport à
demain. Par rapport à plus tard, ouais.
Tout à fait.
Mais ouais,
je peux que confirmer, hein, effectivement, on souhaite tous que le conflit s'arrête, parce que ça va, effectivement, pour toutes les raisons. Mais effectivement, aujourd'hui, ça pèse psychologiquement, mais également sur le porte-monnaie de nos clients, et on n'a pas besoin de ça.
Et justement, je me souviens d'un séminaire technique du Pôle Habitat de la Fédé du bâtiment où un constructeur de maisons me disait lors d'un dîner avec la presse que ça le déprimait de devoir construire des maisons parfois de moins de 50 mètres carrés. Il me regarde, Loïc, mais et, en fait, ma question, c'est, on avait le sentiment que, allez, ces derniers 12 mois, 8, 10 mois, ça y est, ça revenait, on avait le sentiment que voilà. Est-ce que là, de nouveau, on va se dire dire, bon, bah, je vais construire ce que je peux avec ce que j'ai et je vais agrandir plus tard. Est-ce que de nouveau, on est rentré dans cet état d'esprit-là?
Il y a un achat de contraintes, c'est certain. Après, attention, le petit logement, il a aussi du sens. Il est compact au sens de la réglementation environnementale. Il correspond à des familles monoparentales, à des seniors qui vivent de plus en plus longtemps. Hein. Aujourd'hui, on a 60 ans pendant 20 ans. Donc, il faut des logements qui correspondent à ces gens-là. Et quand on vit à deux.
On a 60 ans pendant 20 ans.
Quand on vit à deux dans un logement pendant 20 ans, on n'a pas besoin d'avoir 150 mètres carrés. Donc, le petit logement économe, facile à entretenir, facile d'entretien, qui coûte peu cher en taxes foncières, etc., il a du sens.
Il est rapide à construire pour nous. En fait, sincèrement, on fait pas ce métier en disant on veut construire que des grosses maisons.
Non,
en fait,
mais
on veut construire des maisons.
Mais c'est vrai que dans l'idée, l'image populaire, quand on se dit on va faire construire sa maison. Bon, voilà, l'image qu'on se fait...
Mais il faut mieux construire une maison de 50 mètres carrés à un instant T, puis faire deux extensions de 20 mètres carrés pour arriver à 90, que de rester dans un appartement locataire. Et voilà, donc en fait...
Et aujourd'hui aussi, pour compléter ce que dit Loïc Vendrome, la maison, elle apporte des fonctions qu'elle n'avait pas autrefois. Et quand on veut électrifier les déplacements, et notamment avec la voiture électrique, la maison offre la possibilité d'avoir une borne facilement, sans demander à une copro. Et aujourd'hui, des clients qui étaient en copro, pour laquelle la copro a refusé l'électrification des sous-sols, des parkings, et ben parfois
ils choisissent la maison neuve,
déménagent pour pouvoir électrifier leurs déplacements, décarboner leurs déplacements et économiser sur leurs déplacements. Donc aujourd'hui, c'est un début de tendance.
C'est un truc de dingue quand même. Hein. Moi, j'imaginais pas qu'on déménageait pour brancher sa voiture.
C'est un truc de dingue, surtout que la maison individuelle a été taxée effectivement de polluer parce qu'on crée du transport carboné. Et bien aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec la tendance qui est là, c'est que la maison, elle est en train de décarboner le transport.
Ouais, et puis il y a aussi un autre sujet par rapport à nos petites maisons, je boucle la boucle aussi, sur l'enjeu du ZAN et de se dire bah, comment je fais aussi pour pouvoir répondre à cette envie majoritaire des Français d'avoir leur baraque. Et en même temps, on n'a plus de terrain partout, quoi.
Il faut avoir juste... Les Français ne demandent pas à élever des chevaux dans leur jardin, ils demandent simplement à pouvoir déjeuner dehors, prendre un petit déj dehors un matin où il fait chaud, c'est agréable. Pour ça, on a besoin entre 150 et 250 mètres carrés de terrain. On les trouve à peu près partout, dans toutes les villes, dans tous les villages de France, même les villes les plus, je dirais, tendues.
Denses.
Il y a eu de nombreuses démonstrations qui ont été faites. Je salue certains confrères sur la densité de proximité.
Et la division parcellaire,
exactement.
Ça c'est votre truc chez
Xao. Et là-dessus, il y a des vrais sujets sur lesquels on pourrait accélérer. Nous comptons beaucoup sur les nouvelles municipalités pour être acteurs de cette destinée-là. Par contre, nos élus se rendent compte qu'il va falloir pour ça modifier les PLU, parfois les PLUi, que c'est long, mais il ne faut pas qu'il se décourage parce que
alors,
ça, c'est un enjeu
local d'urbanisme
demain.
Avec le I, c'est intercommunal, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Parce que c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Juste, Sylvain, vous me permettez de passer à l'autre biais, celui de l'action politique. Là, on parle des politiques locales, mais enfin, il y a les politiques nationales. Est-ce que vous sentez, donc on a parlé du prêt à taux zéro qui était de retour dans la maison individuelle, super génial. Est-ce que là, vous avez le sentiment que cette prise de conscience sur ce secteur du logement au sens large et en particulier de vos métiers sur la construction de maisons, ils sont toujours là? Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques sont toujours intéressés par vous? Parce qu'en fait, il y a quand même des dispositifs qui se créent et parfois j'ai tendance à voir qu'on oublie la maison, non?
Non, il y a une vraie évolution de la classe politique. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça touche tous les Français. Donc je pense qu'il y a pendant très longtemps, les politiques n'ont pas regardé trop ce sujet, mais malheureusement aujourd'hui, ça touche tous les Français, donc ils le voient. Donc il y a, et c'est une très bonne chose, une vraie prise de conscience, et quels que soient les partis politiques, avec des nuances différentes, forcément. On le voit, même si ce n'est pas assez par rapport à la crise que les Français vivent d'un point de vue de l'immobilier et du logement, mais il y a quand même des choses qui ont bougé depuis un an. Le PTZ, on reprend certainement tout à l'heure du Jean-Brun.
On va y aller maintenant parce qu'il nous reste 6 minutes, Loïc, le temps passe trop vite.
Donc ça bouge, c'est bien.
Oui, après... ben, le Jean-Brun, vous mettez les pieds dans le plat, le Jean-Brun.
Mais écoutez, pour le coup, là, le Jean-Brun, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais personnellement, je pense que c'est un dispositif qui est aux antipodes des besoins des Français investisseurs pour mettre à disposition des biens locatifs. C'est très bien, mais pour moi, au moment où on se parle, c'est plutôt de la com qu'un réel outil pour des investisseurs d'investir. Ce n'est pas assez massif, il y a trop de taxes sur le logement au niveau d'investisseurs pour que ça devienne rentable. Donc c'est bien, il y a de la bonne volonté, mais ce n'est pas suffisant.
Et Et il faut rappeler que le dispositif Jean Brun a été amputé d'une de ses deux jambes. Hein. Il y a le logement collectif, mais les Français se logent aussi dans des maisons.
Mais oui, mais c'est ça qui est terrible, quand, c'est que, alors quand, moi quand qu'on accuse ministre... de faire du parisianisme à longueur de temps, il y a des gens qui louent des maisons, quoi.
Quand le ministre a choisi de se couper la jambe de la maison, je pense qu'il a fait un très mauvais choix pour prendre le départ de la course des 400 000 logements par an. C'est une erreur de sa part. Il convient très rapidement de corriger cette erreur-là pour que le dispositif prenne son ampleur. Et nous suggérons aussi de sortir de l'IFI les biens qui sont
l'impôt sur la fortune immobilière.
Au titre de résidence principale, il est indispensable de les sortir de l'IFI pour que, enfin, les investisseurs reprennent confiance durablement dans le marché et aient envie d'accompagner ce marché.
Donc il y a une prise de conscience, mais pour vous, on ne va pas assez loin concrètement, en fait, des effets d'annonce.
Ça dépend des sujets. Le PTZ, on a été écouté et ça a marché, on l'avait dit, ça a marché. Le dispositif Jean Brun, l'initiative est bonne, mais la réalité opérationnelle fait que ça ne va pas créer suffisamment de logements. Quelques milliers de logements, mais par rapport à l'impact attendu, le dispositif Jean Brun ne sera pas au rendez-vous des besoins.
Mais pourtant, messieurs, vous faites partie de l'équipe de France du logement, non ?
Et certains jours, on en doute. Si on est dans une équipe, mais qu'on reste sur le banc de touche, en fait, le temps de jeu, il est faible. Et là, c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est-à-dire qu'on a proposé beaucoup de choses. Tout le temps, on donne un regard de professionnel, avec effectivement l'intérêt qui est celui des Français, c'est-à-dire de pouvoir offrir des logements aux Français. Certaines fois, on est écouté. Le PTZ, je pense qu'effectivement, nous avons été écoutés. Et aujourd'hui, on peut mesurer les résultats de ce succès-là. Quand nous ne sommes pas écoutés, ben, nous ne faisons que constater les échecs. Je pense qu'à ce jour, le dispositif Jean Brun est un échec.
Bon, il y a l'action du gouvernement. Et puis, il y a nos députés. On en parlait rapidement, là, dans notre pro de limo du jour, sur l'agrandissement de maisons. Mais enfin, quand même, saluons cette initiative de cette députée UDI, Constance de Pélichy, donc, qui porte un texte qui prévoit de créer un prêt à taux zéro spécifique pour relancer la natalité, accessible dès la déclaration de grossesse jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Je lui ai demandé de le porter à 7 ans, mais apparemment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là ?
Alors, c'est forcément une très bonne nouvelle et ça va vraiment dans le sens du dispositif du PTZ, de la relance du logement, des familles et de la natalité. Après, mon petit bémol est que je pense qu'il faudrait donner peut-être un petit peu moins, mais sur un spectre plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les Français qui ont des enfants à venir, pour des ménages qui ont des enfants de moins de 5 ans, on va dire, qui ont des besoins de logement. Donc c'est très bien, ça va booster la natalité, ça va booster l'immobilier, mais je pense que les 100 000 euros, si le dispositif se confirme de cette manière, c'est très bien, mais peut-être qu'il faudra donner un petit peu moins, mais par contre donner à des familles un peu plus larges, ou aussi à une famille monoparentale. Pourquoi on exclurait une famille monoparentale qui a des besoins ? Donc en fait, c'est très bien, mais il faut ajuster. Et là encore, comme dit Sylvain Massonneau, peut-être nous écouter, nous poser quelques questions.
Il essaie de nous séduire, là, Loïc.
Pour, effectivement, ajuster les choses, mais ça part d'une très bonne tendance, et on ne peut que aller dans ce sens-là.
Mais même en termes de finances publiques, vous pensez que ça a des chances de pouvoir voir le jour à l'heure où on nous explique qu'il faut faire des économies à tous les étages ?
Ben, si jamais on regarde ce que rapporte le logement neuf dans les comptes de l'État, on rappelle qu'un euro, je dirais dépensé entre guillemets, de la part de l'État, ça lui en rapporte deux. Je pense que même mes enfants sont dans des petites classes, hein, au collège. Si je leur confie ce genre
d'écoute, vous n'avez pas le droit au PTZ.
Ils y arrivent. Au collège, ils arriveront vite à comprendre qu'on a intérêt à mettre beaucoup d'euros dans la machine si on veut qu'elle rapporte beaucoup. Donc là, c'est assez simple.
Et c'est les recettes face aux dépenses.
Il faut impérativement que, comme ça a été rappelé pour le PTZ, le gouvernement se tourne vers les professionnels et écoute les quelques conseils des professionnels. Loïc Vendrome vient de le dire, on ne demande pas les choses exceptionnelles. Là, on suggère même de réduire un petit peu l'enveloppe. Ça paraît contre-intuitif. Nous sommes des gens responsables. Écoutez-nous.
Messieurs, il nous reste 2 minutes. Je vois que j'ai un gros chiffre face à moi. On est à moins de 70 000 logements de maisons neuves construites alors il faut vraiment que je mette mes lunettes à fin mars sur 12 mois. C'est quoi la perspective là sur l'ensemble de l'année, à votre avis? Est-ce qu'on va se tenir là? Vous parliez d'un plateau en démarrage d'émission. Est-ce qu'on risque de chuter? C'est quoi vos perspectives?
C'est compliqué de répondre à cette question, mais nous, chez Exaom, on vise sur un maintien du marché à ce niveau-là. Effectivement, là, les chiffres sont encore bons parce qu'on est sur une moyenne 12 mois. Mais si on regarde le début d'année est flat. Ouais. Donc c'est déjà une bonne nouvelle que ce soit flat, vu ce qu'on a connu. Mais effectivement, on s'attendait à une remontée. Dans les conditions actuelles, je pense qu'il ne faut pas espérer que le nombre de maisons vendues se développe.
Ouais.
Après, il ne faut pas non plus être pessimiste. Et aujourd'hui, il n'y a pas un effondrement. Il y a des bonnes, il y a des bons leviers aujourd'hui pour construire. On en a parlé. Les taux restent stables. On a aujourd'hui un PTZ qui permet à beaucoup de gens d'accéder. Donc voilà, il ne faut pas être pessimiste, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est flat.
Et pour compléter ce que dit Loïc Vendrome, nos entreprises ont connu des crises successives depuis le Covid. Nos entreprises se sont adaptées en charge humaine. Nos équipes sont adaptées à ce rythme de production. Si effectivement le marché se stabilise autour de 70 000 maisons neuves par an, ça sera un rythme qui sera cohérent avec la capacité de production des entreprises, cohérente avec notre charge de travail. Donc tout à fait digeste pour le marché. On pourra produire dans de bonnes conditions, sans risque de baisse de qualité ou de défaillance exagérée. Donc ça serait déjà pas mal si on arrivait à faire flat, comme dit.
Mais par contre, je vous confirme, si demain il y a des aides ou si on réduit les normes pour baisser le coût de construction, la demande elle est là.
Elle et pourrait
tout
augmenter,
suite,
et tout bien
suite,
sûr.
Ça va augmenter, c'est
sûr.
Certain.
Et nous serons capables d'y faire face.
Parce qu'on rappelle, moins de 70 000 aujourd'hui, on était à combien? 110 000?
Ah bah 120, on est monté jusqu'à 120 000 et le vrai bon rythme, il serait autour de, on estime, 100 000, 110 000. Ça serait un très bon rythme de croisière pour le marché et pour coller aux attentes de l'annonce du ministre.
Eh bah, bien, si les pouvoirs publics pouvaient nous écouter deux minutes pour relancer cette équipe de France du logement dont vous faites partie tous les deux, Sylvain Massonneau, directeur de Tradimaison en Auvergne et vice-président du Pôle Habitat FFB, et Loïc Vendrome, le directeur général d'Exahome, qui était avec nous pour parler maison neuve. Demain, je vous retrouve pour un nouveau débat dans les experts de l'IMO sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.